Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. En raison des changements climatiques, de nombreux bouleversements affectent maintenant toutes les régions du monde. Ces changements n'impactent pas seulement notre santé physique avec la contamination des sols, de l'air et des eaux, mais semblent aussi influencer notre équilibre psychologique. Pour en savoir plus sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Serge Tisseron. Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies et président fondateur de l'Institut pour l'Histoire et la Mémoire des Catastrophes. Bonjour Serge.
Bonjour Jean-Michel.
Serge, quels sont les effets du changement climatique sur la santé mentale et comment en reconnaître les manifestations ?
Écoutez, nous percevons tous ces effets dans le climat d'insécurité dans lequel nous vivons. On parle de changement climatique, mais les inquiétudes sur les bouleversements climatiques nous plongent dans l'insécurité. Alors cette insécurité, elle peut se traduire de beaucoup de façons, parfois par de la colère, de l'angoisse, la peur de l'avenir, l'inquiétude de ce que seront nos enfants par rapport à tous ces bouleversements. Et puis aussi, comme c'est une situation inconfortable, on voit des personnes qui décident que finalement, tout ça va se résoudre, ou voire même il n'y a pas de changement climatique, ou bien les scientifiques vont inventer quelque chose pour nous tirer d'affaire. Donc une insécurité qui est générale, et aujourd'hui, dans laquelle les images de grandes catastrophes, pas seulement les images, aussi toutes les grandes catastrophes que beaucoup d'entre nous vivent, tout ça alimente l'insécurité, et d'où soit, vous voyez, un déni, ce qu'on appelle en psychologie un déni, ça va s'arranger. Pour ceux qui n'ont pas vécu de catastrophe, nous, on ne sera pas touchés. Voilà. Et soit un sentiment de découragement, d'impuissance, qui contribue beaucoup aujourd'hui à une sorte d'angoisse ou de dépression assez généralisée dans la population.
Alors, depuis quelques années, les événements extrêmes se multiplient très fréquemment, voire plus fréquemment. On entend parler d'inondations, de tempêtes, de restrictions d'eau et aussi de canicules sur toute ou partie d'un territoire national. Comment, à l'échelon local, les collectivités peuvent-elles favoriser la résilience de leurs habitants ?
Oui. Alors, écoutez, il faut bien comprendre que déjà, il est important d'avoir une expression qui nous invite à nous mobiliser. Aujourd'hui, on parle de culture du risque. Culture du risque, beaucoup de gens ne voient pas très bien ce que ça veut dire. Et puis, culture du risque, ça voudrait dire qu'il faut vivre en permanence avec le risque. Non, je pense qu'il vaudrait mieux déjà parler de culture de la sécurité partagée, culture de la sécurité de tous par tous. Parce que on s'aperçoit que par rapport à tous les bouleversements actuels et ceux qui s'annoncent, construire la résilience, ça suppose de mobiliser toutes les forces actives permettre, par exemple, qu'il existe des réserves d'habitants volontaires, informés, mobilisables en cas de crise de majeur. Ces personnes que j'appelle des ambassadeurs de la résilience sociétale. Et puis, impliquer beaucoup plus les habitants dans les choix locaux, de manière à renforcer le lien social au quotidien. Il a été montré au Japon, après le tsunami, que certains villages de la côte Est avaient eu beaucoup de morts, et d'autres villages de la côte Est, très peu, ou voire pas du tout. Pourtant, c'était des villages de pêcheurs avec la même économie, avec la même organisation de l'habitat. Mais les sociologues japonais ont montré que dans les villages où il y avait eu beaucoup de morts, il y avait très peu de liens sociaux. Les gens se préoccupaient peu les uns des autres, entre voisins, il y avait peu d'événements collectifs. Au contraire, dans les villages où il y avait très peu de morts, voire pas de morts, les habitants étaient souvent réunis, il y avait des fêtes, il y avait des événements commémoratifs. Et donc, du coup, vous voyez, ce qui est important aujourd'hui, c'est de renforcer le lien social au quotidien. Et pour renforcer le lien social au quotidien, rien n'est plus utile que d'impliquer les habitants dans les choix locaux, le mobilier urbain, l'aménagement des villes, et puis bien sûr aussi lutter contre les inégalités. Il y a beaucoup de raisons de lutter contre les inégalités, mais il faut comprendre que si on veut une ville plus résiliente, la lutte contre les stress chroniques, hein, notamment en améliorant les conditions de transport, les conditions de vie, mais aussi la lutte contre les inégalités, doivent devenir des objectifs prioritaires pour les municipalités.
Oui, c'est effectivement, mais c'est pas à l'heure actuelle, du moins sur le territoire français, on est quand même très individualiste. Et aussi, ouais, en fait, oui. C'est des cultures qui ont été supprimées pour aller vers au nom de l'État. On doit donner sa vie pour l'État, mais individuellement, pas en groupe.
Oui, eh ben oui, il faut changer ces habitudes-là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que par rapport au bouleversement qui s'annonce, eh bien, il ne faut pas comptabiliser qui va mourir, qui va survivre. Il faut essayer de se mobiliser ensemble avec l'idée de tous vivre mieux, hein, et de faire face ensemble à ces événements, encore une fois, imprévisibles, mais pour lesquels des personnes sont prêtes d'ores et déjà à être formées et à être mobilisées. Et ce sont ces fameux ambassadeurs, hein, de la catastrophe qui pourraient être, ou de l'ambassadeur de la résilience sociétale, hein, qu'il faudrait développer un peu partout, au niveau des quartiers, au niveau des bâtiments. Voilà, il y a beaucoup de collectivités gérées par des conseils syndicaux. Dans les conseils syndicaux, il pourrait y avoir à chaque fois une personne qui serait plus en lien avec les sachants, hein, autour des risques de catastrophe. Et dans chaque conseil syndical, il y aurait une sorte de copropriétaire plus spécifiquement informé qui pourrait servir de lien entre ce que la science nous apprend, ce que les techniciens essayent d'imaginer pour nous protéger, et puis, d'un autre côté, les habitants de la copropriété, de manière à ce que les gens se sentent impliqués, et non pas rassurés par ce qu'on leur promet de faire, mais rassurés parce qu'on leur explique qu'ils pourront faire au moment où surviendra une catastrophe.
Alors j'entends plusieurs fois le mot catastrophe. Est-ce que c'est pas un mot où il n'y a pas un autre mot à trouver pour que ce soit plus humain en perception?
Ben écoutez, le mot catastrophe a un intérêt énorme, c'est que on ne sait pas sous quelle forme elle va arriver, mais on sait qu'elle va arriver. Regardez Fukushima, personne ne l'avait anticipé. Le propre d'une catastrophe, c'est que on ne l'anticipe pas. Les incendies en Australie, personne ne les avait anticipés. Donc aujourd'hui, on vit dans une situation où on ne peut pas simplement penser en termes de leçons du passé. Voilà, on sait qu'il y a des incendies de telle importance tous les 10 ans en moyenne, voilà. Mais on est obligé de penser qu'il peut arriver des événements qu'on n'avait pas anticipés. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'y préparer. Bien au contraire, ça veut dire qu'il faut se préparer à faire face à des situations inattendues. Donc, le plus possible, informer les populations sur le fait que si un événement commence comme ce qu'ils connaissent, il se met à pleuvoir tout d'un coup, ça ne veut pas dire que comme les fois précédentes, ça va s'arrêter au bout d'une journée ou au bout de 2 jours. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, il faut éduquer les gens pour leur apprendre que ce qu'ils connaissent jusqu'ici, c'est insuffisant. Il faut être capable d'imaginer des choses pires, mais encore une fois, il faut surtout imaginer comment la solidarité des populations proches, hein, la solidarité des gens qui habitent les uns proches des autres, vont pouvoir permettre de faire face ensemble, hein, à ces problèmes. On parle beaucoup de faire face ensemble par rapport au terrorisme. Ben, écoutez, par rapport au dérèglement climatique, c'est exactement la même logique. Et même avec une différence quand même, c'est que eh bien, il est possible de préparer des gens localement, parce que beaucoup de gens peuvent se dire « le terrorisme ne frappera pas chez moi », alors que personne, nulle part sur la planète, ne peut dire « les catastrophes climatiques ne frapperont pas chez moi ».
Effectivement. Serge, si on reste toujours au niveau de l'échelon local, d'après vous, une collectivité peut-elle contribuer à la réduction des stress post-traumatiques au sein de sa population dans le cas d'une catastrophe extrême qui se déroulait ?
Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre qu'il y a tout un aménagement urbain. Alors, les techniciens travaillent à fabriquer des maisons, déjà choisir mieux les emplacements des maisons, construire des maisons plus isolées pour résister au très grand froid ou aux très grandes chaleurs ou aux privations d'énergie. Et puis, parfois dans les régions inondables, des maisons qui risquent moins de prendre l'eau. Voilà, avoir même des maisons qui puissent flotter, comme imaginent des ingénieurs hollandais. Mais il faut bien comprendre que il y a aussi toute une part d'information, bien sûr, qui peut rassurer les gens. Ce qui est terrible, c'est d'avoir l'impression que quelque chose d'affreux peut arriver, qu'on n'a pas de moyen de se protéger. Donc il faut expliquer aux gens, ben voilà, qu'il y a un certain nombre de comportements à apprendre, y compris dans des catastrophes dont on n'a pas envie d'entendre parler en France, hein, comme les catastrophes nucléaires. Ça, lorsque j'ai créé l'Institut pour l'Histoire et la Mémoire des Catastrophes, le ministère qui nous a un peu aidés n'était pas du tout favorable au fait que l'on puisse évoquer les catastrophes nucléaires.
Et pourtant, Tchernobyl s'était arrêté à la frontière allemande.
Le nuage radioactif s'était arrêté à la frontière. Et on nous a dit et répété que les centrales nucléaires françaises, ça ne pouvait pas leur arriver. Bon, ben oui, en situation normale, ça ne leur arrivera pas. Mais si, par exemple, le niveau du Rhône baisse beaucoup à cause d'une grande sécheresse, eh ben, les centrales nucléaires auront de la peine à se refroidir. Donc, ce qui implique soit de les arrêter avec des conséquences terribles, ben, soit d'élever la température du Rhône avec des conséquences terribles aussi.
Donc, c'est marrant, vous parlez des centrales nucléaires là, du Rhône, le dernier tremblement de terre. Donc, les médias nous ont dit que côté central, il n'y avait rien, mais personne n'a abordé le sujet de la fragilité des digues de refroidissement pour l'eau.
Exactement, exactement. Les digues de refroidissement, les systèmes de refroidissement sont le point très fragile des centrales nucléaires. Voilà, donc il faut informer les gens, tout peut arriver. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'impliquer beaucoup plus, d'ores et déjà, les habitants dans la gestion de tâches collectives. Parce que s'il y a une catastrophe, quelle qu'elle soit, une grande chaleur, grande canicule, grandes inondations, radiations, les habitants auront besoin de s'entraider. Hein. L'être humain, vous savez, n'a pu survivre aux événements terribles qu'il a traversés dans l'histoire que parce qu'il a su s'entraider. Tout seul, l'être humain n'est rien. Seul, nous ne sommes rien de rien. Mais ensemble, nous sommes forts. Donc c'est le message qu'il faut faire passer. Et pour que les gens prennent conscience du fait qu'ensemble, ils sont forts, il faut les impliquer beaucoup plus dans la gestion au quotidien, la gestion des quartiers. Vous savez, les élus se méfient de leurs électeurs. Ils aiment bien être élus, et après ils disent en général à leurs électeurs, voilà, je vais m'occuper de vous, et puis revoter pour moi aux prochaines élections. Non, il faut impliquer beaucoup plus les habitants dans tout ce qui peut être géré par eux, sous leur responsabilité. Par exemple, à Paris, on a parlé de végétaliser les trottoirs, les terrasses. Bon, essayer de végétaliser un trottoir, c'est pas possible. On vous autorise juste à planter 3 tulipes autour de chaque arbre. C'est pas sérieux. Il y a énormément d'espaces couverts de goudron noir qui sont des pompes à chaleur. Pourquoi ne pas autoriser tous les habitants à végétaliser leur trottoir? Pourquoi ne pas transformer les écoles en oasis de fraîcheur qui seraient accessibles le samedi et le dimanche en cas de canicule, sous la responsabilité des citoyens? Pourquoi ne pas confier la gestion du mobilier urbain aux habitants, en ouvrant des concours pour chaque quartier sur le mobilier urbain qui sera installé et en permettant aux entreprises qui sont installées sur le quartier de faire des propositions ou d'autres si les habitants du quartier le décident. Alors vous allez me dire, tout ça, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le réchauffement climatique. Non, mais ça a à voir avec l'apprentissage d'autres manières de se comporter entre citoyens, c'est-à-dire de s'impliquer beaucoup plus dans des tâches de gestion collective. Et c'est ça, encore une fois, hein, qui a permis à des villages japonais de la côte est de résister au tsunami. Et c'est ça, c'est la grande leçon du tsunami. La grande leçon du tsunami, c'est pas qu'il faut protéger mieux les centrales nucléaires. La grande leçon du tsunami, ben, c'est qu'il faut impliquer beaucoup plus les habitants, parce que en cas de catastrophe, nous risquons tous d'être menacés par notre solitude, et pas seulement par l'événement climatique extrême lui-même.
D'accord, effectivement. Mais il y a une approche que je n'ai pas entendue encore de votre part, c'est cette notion d'anticipation. Je veux dire par là, une catastrophe, on l'appelle catastrophe par exemple de nos jours, parce que on se rend compte qu'on est une population essentiellement citadine, et qu'elle a une image de ce qu'est la nature et l'environnement qui est celle qu'on lui inculque. Elle n'a pas vécu au milieu de la nature pour voir ce que c'est, avoir le sentiment de ce qu'est la nature. Comment peut-on atténuer des stress ou préparer les gens à des situations extrêmes le cas échéant, mais en leur faisant accepter qu'ils ont toujours le moyen de s'en sortir?
Il faut bien comprendre que l'être humain a un certain nombre d'infirmités liées à sa nature physique. Voilà. L'être humain, il est habitué par l'évolution à identifier les risques avec ses sens. Voilà, il fait froid, il fait chaud, voilà. L'anticipation, elle se fait d'abord avec nos organes sensoriels. Le fait qu'on puisse anticiper avec des appareils électroniques plus ou moins sophistiqués, on sait que ça existe. Mais spontanément, on a toujours tendance à anticiper les choses avec nos organes des sens et puis aussi avec notre connaissance du passé. Et ça, c'est une seconde infirmité, c'est que notre connaissance du passé, elle nous prépare à faire face aux catastrophes, enfin aux situations extrêmes, enfin aux situations problématiques, telles qu'elles ont été vécues par le passé. Alors ça peut être le passé personnel, ou dans certaines régions où il y a une mémoire des catastrophes, en montagne notamment, les vieux racontent à leurs enfants, leurs petits-enfants, des événements dramatiques qui sont passés, et peuvent éventuellement communiquer à leurs enfants, à leurs petits-enfants, des moyens d'y faire face, qui eux-mêmes, lorsque ces enfants sont devenus grands et parents, grands-parents, ils communiquent à leurs enfants, petits-enfants, les moyens d'y faire face. Donc vous voyez, deux faiblesses de l'être humain par rapport au dérèglement climatique aujourd'hui, c'est la tendance à juger des choses à partir de ses sens, voilà. Comme disaient certains quand il faisait un peu froid il y a 2 ans, ben il n'y a pas de réchauffement climatique puisqu'il fait un peu froid en été. Voilà, bon, la preuve que, vous voyez, il le disait sérieusement en plus.
Hein. Ouais.
Donc première faiblesse jugée à partir de ses sens, comme si mes sens m'informaient de façon correcte sur le monde. Et puis deuxième chose, quelle est mon attitude sur ce que je connais qui est déjà arrivé, sans pouvoir anticiper ce qui n'est jamais arrivé. C'est pour ça que le mot catastrophe que certains peuvent critiquer parce que il est dramatique, il permet de comprendre qu'il faut arriver à sortir de ces deux faiblesses liées à notre nature humaine et comprendre que les scientifiques nous informent de choses que nos sens ne peuvent pas appréhender et que d'autre part, face à des événements nouveaux, il va nous falloir inventer des comportements que nous n'avons pas appris par le passé parce que les événements nouveaux ne ressembleront pas à ce que nous avons vécu. Et donc on s'aperçoit qu'à partir de là, la seule manière de se préparer à des événements dont on ne connaît pas encore bien la nature, c'est de développer des liens sociaux au quotidien de façon à pouvoir y faire face ensemble. Hein. C'est-à-dire que la seule chose dont on est sûr, c'est que quelle que soit la catastrophe qui arrivera, nous ne pourrons y faire face qu'ensemble. Et que si les liens n'ont pas été développés, s'il y a des amertumes très fortes liées à des inégalités sociales, liées à des affrontements intergénérationnels, liées à des affrontements entre régions du pays, s'il y a tout cela, eh bien, cela ruine la capacité des humains à faire face aux événements extrêmes dont on sait encore une fois qu'ils ne manqueront pas d'arriver, même si on ne sait pas sous quelle forme.
D'accord, non, effectivement, donc la mémoire est là. On anticipe, on se prépare, on apprend à composer avec l'événement, puis à travailler ensemble pour résoudre, apporter des solutions. Maintenant, à ce stade de notre discussion, je comprends que les collectivités ont différents rôles de prévention et d'accompagnement à assumer, qui sont essentiellement pour assurer avec efficience la résilience de leurs habitants suite à un événement extrême.
Voilà, il faut que les collectivités changent de logiciel, comme on dit parfois aujourd'hui, ou changent de point de vue, plus simplement. Il ne s'agit pas de demander aux techniciens comment protéger les populations et dire aux populations on vous protège. Hein. Il s'agit de faire comprendre aux populations que c'est à elles de se prendre en charge collectivement, mais évidemment avec l'aide, hein, avec toutes les ressources disponibles. Alors c'est un changement terrible parce que depuis un siècle, nous sommes largement habitués en tant que citoyens à faire confiance au pouvoir public que nous élisons pour qu'il nous protège, pour qu'il veille sur nous, pour qu'il fasse en sorte que nous ne vivions aucune menace grave. Mais je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, les politiques aient le courage de dire que, en situation extrême, c'est pas l'armée qui va résoudre les problèmes, c'est pas les pompiers qui vont résoudre les problèmes, c'est pas les services sociaux qui vont résoudre les problèmes. Mais c'est qu'il faut que les gens se préparent à résoudre les problèmes ensemble. Je dis pas chacun tout seul, surtout pas. Ensemble, hein, voilà. Et sinon, les services spécialisés, vous savez, en cas de catastrophe extrême, ils sont vite dépassés. Regardez en Australie, la majorité des pompiers sont des volontaires bénévoles. Parce que face à des incendies qu'il y a actuellement en Australie, les pompiers de métier sont très rapidement submergés.
Alors, donc, comment vous expliquez ça? Le fait qu'on est donc, on connaît bien maintenant les enjeux du climatique sur la santé physique et mentale. Et pourtant, on ne passe pas à l'action, ou alors la barre est encore très haute pour relever ces défis.
Parce que pour moi, mon idée, c'est que impliquer beaucoup plus les habitants dans tous les choix locaux, ça suppose de déranger beaucoup d'administrations Et il faut que les politiques aient le courage de déranger les administrations. Il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai fait partie du conseil consultatif de la ville de Paris pour proposer des aménagements, à l'époque, nous avons proposé énormément d'aménagements. Le pouvoir politique à l'époque nous a dit « vous allez rencontrer les administrations concernées ». Et les administrations concernées sont toutes venues en nous opposant le fait que tout allait très bien et qu'il n'y avait rien à changer. Les bibliothèques étaient, les médiathèques ouvraient aux bonnes heures. Les gens qui y venaient étaient contents, mais évidemment, parce que ceux qui y venaient pas, ils venaient pas dire qu'ils n'étaient pas contents des horaires d'ouverture. Le mobilier urbain, c'était impossible de l'aménager quartier par quartier. Il paraît, fallait-il que le mobilier urbain soit le même dans tout Paris. C'était obligatoire. L'administration a dit, on peut pas faire autrement. On a dit, mais à prix égal, qu'est-ce que ça vous fait? On peut pas faire autrement. Et ainsi de suite. Un refus systématique de toutes les propositions que nous avons faites à l'époque, ce qui m'a amené évidemment à démissionner. Donc je crois qu'il y a une énorme... La France est un pays dans lequel il y a des administrations d'une grande lourdeur. Voilà, il faut que les administratifs s'impliquent aussi en tant que citoyens pour qu'ils comprennent la double implication qu'ils doivent avoir en tant que citoyens à niveau local et en tant que fonctionnaire d'une administration qui doit également participer à cette évolution indispensable. Si les gens ne sont pas invités à participer beaucoup plus aux choix locaux, eh bien, ils ne se mobiliseront jamais collectivement en cas de catastrophe extrême.
Oui, effectivement, là, c'est une redéfinition de la notion de service public français.
Exactement, c'est une redéfinition de la notion de service public, absolument. Il y a beaucoup à faire, voilà. Mais encore une fois... Il y a des pays qui, dans lesquels les choses sont plus légères. Si vous voulez, le grand problème de la France, c'est la centralisation. Il faudrait décentraliser énormément de choses pour que les décisions soient prises localement. Regardez, vous allez au Canada. Chaque quartier a son propre mobilier urbain. Pourquoi est-ce qu'à Paris, chaque quartier ne peut pas avoir son propre mobilier urbain? Pourquoi est-ce qu'il se fait au Canada? Ça ne peut pas se faire chez nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en France, il y a toute une tradition du centralisme qui est due à la royauté, puis qui est due à l'Empire, puis qui est due à la Troisième République. Et donc tout ça fait qu'il nous faut absolument prendre conscience du fait que ça n'est plus adapté à la situation actuelle, compte tenu des grands dérèglements qui s'annoncent, qui nécessitent que les populations se mobilisent vite. Mais pour se mobiliser vite, il faut qu'elles soient d'ores et déjà impliquées dans la capacité de se mobiliser pour des choix minimes mais importants quand même, comme le mobilier urbain, pour pouvoir se mobiliser ensuite sur des choses beaucoup plus graves quand ça arrive. On ne peut pas passer d'un système dans lequel les gens ne participent quasiment à rien à un système dans lequel ils se prennent en charge eux-mêmes si on les a pas préparés d'abord dans des choix quotidiens à interagir, à organiser des votes citoyens, à se réunir dans les écoles ou dans les jardins publics, décider ensemble, créer une vraie démocratie de décision locale.
Oui, effectivement, là vous remettez en cause la définition de ce qu'est la liberté. La liberté de la République et la liberté au sens noble du terme. Là, en tant que citoyen, on a le droit de faire des choses et notre définition de la liberté, c'est ce auquel on a le droit. Là, revoir l'organisation au niveau des territoires et rendre actifs les citoyens tels que, effectivement, on va devoir le faire, ça remet en cause notre définition de vivre ensemble dans la République.
Ça remet en cause, mais on n'a pas le choix. Moi, ce que je dis,
oui, effectivement, c'est la nature qui nous rappelle à l'ordre.
Exactement, exactement. C'est plus, si vous voulez, la démocratie citoyenne de base aujourd'hui n'est plus une option parmi d'autres. C'est un choix indispensable pour faire face à des événements climatiques majeurs. Faire face ensemble à des événements climatiques majeurs. Voilà.
Oui, effectivement. Merci Serge. Compte tenu des connaissances apportées par les neurosciences, quelles seraient, d'après vous, les stratégies pour rendre les discours locaux plus efficaces et accompagner l'adaptation?
Alors écoutez, quelque chose déjà de très important serait de positiver les messages, c'est-à-dire de mettre l'accent sur l'importance du bien vivre ensemble, de la participation, de l'entraide, de la solidarité, de la lutte contre les inégalités, en insistant à chaque fois sur l'importance des bénéfices que les populations peuvent en tirer. Il n'est pas obligatoire de mettre toujours en œuvre l'épouvantail de la catastrophe. Bon, là, on en a parlé parce que, voilà, vous me demandez mon avis, on est à la radio. Mais je veux dire, les pouvoirs publics au niveau local peuvent faire énormément de choses qui préparent les habitants à des situations extrêmes sans pour autant lui agiter l'épouvantail du changement climatique. Parce que si les municipalités agitent l'épouvantail du changement climatique, ça peut être contre-productif. Les gens peuvent dire, ben, c'est tellement terrible ce qui se prépare que finalement, on n'y peut rien et c'est plutôt à l'État de nous protéger. Non, il vaut beaucoup mieux que les collectivités locales favorisent ces changements que j'évoquais il y a quelques minutes à un niveau local. Trouver des personnes au niveau des quartiers qui puissent se servir de relais pour des informations importantes, impliquer les habitants dans les choix locaux, renforcer le lien social au quotidien, lutter contre les inégalités, lutter contre les stress chroniques. Tout ça, il n'y a pas nécessité de le faire en brandissant l'épouvantail du changement climatique. Mais ce sont des choses qui vont préparer les populations petit à petit, parce qu'elles vivront dans un climat de plus grande sécurité, à accepter un discours alarmiste, et justement alarmiste autour du changement climatique.
Oui, effectivement, au niveau local il y a ça, mais je pense qu'aussi il y a peut-être, là c'est un avis personnel, il y a peut-être aussi au niveau de l'éducation à l'école, apprendre aux enfants à voir des messages positifs et voir les choses différemment,
oui, alors,
comme là.
Alors vous avez tout à fait raison. Alors ce que peuvent faire aussi les villes, c'est en effet développer l'éducation dans les écoles, en invitant les enfants à travailler sur la mémoire des événements problématiques qui sont survenus. Alors non pas pour dire, voyez, il y a eu une coulée de boue à tel endroit en 1910, il peut y en avoir une autre au même endroit, mais en disant plutôt, voyez, il y a eu une coulée de boue en 1910 à cet endroit, les habitants ont réagi de telle et telle manière, il y a eu des bonnes manières de réagir, il y a eu des manières problématiques de réagir, donc en habituant les enfants à penser les bonnes façons de réagir. Bon, puis si on peut éviter de reconstruire au même endroit, c'est encore mieux. Et là, souvent, hein, là où il y a eu des événements dramatiques, comme il n'y a pas eu de mémoire cultivée par les municipalités, il y a souvent eu des nouvelles habitations qui ont été construites et qui sont menacées par de nouvelles coulées de boue, de nouvelles inondations. Mais déjà, travailler sur la mémoire, comme on le fait à l'Institut pour l'Histoire de la Mémoire des Catastrophes, c'est contribuer à la résilience sociétale. D'ailleurs, notre slogan, c'est la mémoire de chacun au service de la résilience de tous. Travailler dans les écoles, en effet, mais aussi que les municipalités installent beaucoup plus d'informations dans les villes sur les catastrophes du passé. Une crue de Seine terrible en Paris il y a un siècle. Bon, il est possible qu'elle se reproduise un jour. L'important, c'est pas de savoir qu'elle a été dramatique. L'important, c'est de comprendre comment les gens y ont survécu. Et puis comprendre comment on prend les bons réflexes, hein, les bonnes manières de faire, si quelque chose de semblable se produisait ou quelque chose de plus grave se produisait. Mais ça passe d'abord par une information, mais une information dédramatisée, mais une information quand même. Entre dire la crue de Seine, c'est un drame abominable, elle se reproduit comme il y a un siècle compte tenu de tous les aménagements qui rendent Paris encore plus fragile, il y a entre dire cela et paniquer les gens. Et puis cacher l'importance de l'inondation de la crue de Seine, il y a un moyen terme. C'est d'informer les gens sur l'importance de cette crue. Moi, j'ai demandé depuis des années qu'il y ait des repères de crue très nettement visibles, un peu comme les rames qui indiquent aujourd'hui les rames métalliques, les fausses rames qui indiquent les informations historiques de la ville de Paris. Que chaque fois où il y a une rame marron, puisqu'elle est marron, qui indique des informations historiques sur la ville de Paris, qui est à côté une rame bleue, dont le sommet indique la hauteur de l'eau lors de la grande crue centennale. C'est une information, les gens, elle n'est pas alarmiste, mais c'est une information. Hein, il faut sortir de l'idée qu'on aurait le choix qu'entre Charybde et Scylla. Le Charybde de l'information alarmiste et le Scylla du silence. Non, entre les deux, il y a une information, après, que les gens peuvent s'approprier, dont les gens peuvent discuter, hein, parce qu'ils ont cette information. Et ceux qui ont envie d'en parler vont en parler. Et ceux qui n'ont pas trop envie d'en parler, à force d'écouter d'autres en parler, ben ils vont comprendre que c'est important de se préparer à telle situation.
À vous entendre, quand même, il faut du temps pour arriver à ça.
Faut du temps, c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant.
Oui, effectivement.
Si on veut végétaliser toutes les cours des écoles et les ouvrir le samedi et le dimanche en cas de canicule extrême, pour en faire des îlots de fraîcheur pour les populations locales, il faut s'y mettre dès maintenant.
Oui, effectivement. Mais bon, c'est pas encore, ça n'a pas démarré encore. Serge, notre émission touche à sa fin. Pour finir, je vous propose une question plus humaniste qui est la suivante. Est-ce que, d'après vous, les hommes peuvent trouver des sources de bonheur compatibles avec les nouveaux comportements à développer ?
Bien entendu, bien entendu. Si les gens sont mobilisés pour participer à l'amélioration de leur environnement. Bon, par exemple, je parlais tout à l'heure de la végétalisation des terrasses d'immeubles, des trottoirs. Ben, il faut que ça soit soumis à leur initiative. Il faut que les villes mettent à la disposition des moyens pour pouvoir le faire. Je vous parlais de transformer les écoles. Alors, effectivement, si on attend la municipalité dégage des budgets, mais si vous savez, parmi les parents d'élèves, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont des marteaux piqueurs, il y a des gens qui ont des petites pousses d'arbres dans leur cour qui peuvent apporter. Donc, pourquoi ne pas dire aux parents d'élèves, voilà, ben on prévoit, pour ceux qui ont envie, cet été, on va transformer la cour. Et on va la débétonner, on va la transformer en oasis de fraîcheur. Ben, je suis sûr qu'il y aurait des tas de parents qui diraient formidable. Il y en a qui viendraient avec leur marteau piqueur, il y en a qui viendraient avec leur pelle ou leur pioche, il y en a qui viendraient avec leurs idées, il y en a qui feraient de la nourriture pour les travailleurs, et puis les enfants seraient super contents. Mais il ne faut pas partir de l'idée que ces grands changements, ils doivent passer par le système hiérarchique traditionnel. Encore une fois, face à la catastrophe, on va tous devoir retrousser nos manches. Alors pourquoi, dans la prévention de la catastrophe, on ne retrousserait pas nos manches? La meilleure manière de se préparer à retrousser nos manches en situation de catastrophe, c'est de commencer à retrousser nos manches maintenant pour nous y préparer. Autrement dit, quand je dis transformer les écoles en oasis de fraîcheur ouvert samedi et dimanche, je ne veux pas dire on va attendre d'Éducation nationale et des municipalités qu'elles trouvent de l'argent et qu'elles donnent l'autorisation. Bon, qu'elles donnent l'autorisation, bien sûr, mais elles devraient le donner tout le temps. C'est-à-dire que des parents ont envie de changer la cour. Eh bien voilà, vous changez la cour. Ben, ils le feront. Ils le feront bien, croyez-moi, parce que c'est leurs enfants qui vont dans l'école. Tous les parents sont extrêmement attachés à ce que leurs enfants vivent bien à l'école. Et si on propose à tous les gens qui vivent dans des centres-villes surchauffés en cas de canicule d'avoir accès à une cour d'école ombragée avec des jets d'eau et avec des espaces verts, eh bien, évidemment, les gens diront « il faut le faire, c'est utile ». Il faut que l'État desserre le verrou des autorisations administratives pour permettre aux gens de s'organiser ensemble. Pourquoi s'organiser ensemble? Parce que quand la catastrophe arrivera, ils devront y faire face ensemble. Et s'ils ne se sont pas préparés ensemble, ils n'y feront pas face ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre.
Effectivement, il faut arriver à définir ce que ça veut dire ensemble.
Ça veut dire que tous les parents d'élèves d'une école se réunissent pour savoir comment certains aménagements pourraient être faits dans cet établissement pour que leurs enfants en profitent. Voilà.
Quand vous dites parents d'élèves, c'est parents des élèves.
Bien sûr, les parents d'élèves, déjà. Parce que beaucoup d'adultes vivant dans un quartier ont des enfants dans l'école du quartier. Ou s'ils n'en ont pas, ils vont en avoir parce qu'ils sont futurs parents, ou alors ils en ont eu parce que leurs parents ont changé, leurs enfants ont changé d'établissement depuis un an ou deux. Et éventuellement, ils pensent peut-être avoir un petit frère ou une petite sœur, donner un petit frère ou une petite sœur à leur enfant.
Oui. Donc vous avez abordé le sujet de la végétalisation qui est un moyen d'amener de la fraîcheur, mais je pense pour ma part que l'urbanisation au sens large est à revoir aussi.
Bien sûr, mais il faudrait que les ingénieurs se réunissent, que les architectes prennent beaucoup plus en compte le point de vue des habitants. Regardez, à Paris, il y a une Bibliothèque nationale de France. Vous savez que quand il pleut, le service d'urgence à côté est rempli de citoyens qui se sont cassés les jambes parce que l'accès à la Bibliothèque nationale de France, rue de Tolbiac, hein, dans l'est de Paris, eh bien, l'accès oblige à passer sur des planches extrêmement glissantes dès qu'il y a un peu d'eau et dans des espaces extrêmement ventés où vous êtes sûr de tomber malade parce que tout ça a été conçu sans aucune préoccupation pour l'humain. Aucune.
Oui,
La BNF est un édifice à voir de loin, mais ce n'est pas un édifice où travailler et où vivre.
Effectivement, c'est des choses qu'il faut... Enfin, il y a des nouveaux comportements dans ces métiers-là qui... Moi, j'entends des jeunes parler de la végétalisation, de plein de choses, et ils disent pour rendre la ville belle. Ça a des limites, la beauté.
Bien sûr, tout le monde le veut. Mais si vous voulez, on sait que c'est Mitran qui a décidé le projet de bâtiment de la BNF, qui a décidé sur maquette ce que ça serait ce bâtiment. Mais pourquoi pas ce bâtiment? Mais il aurait fallu aussitôt envisager le facteur humain. Or, le facteur humain aujourd'hui est dramatiquement absent d'un grand nombre de décisions. Je veux dire, et même le facteur technique, parce que regardez, en Hollande, ils se basent pour les digues sur les crues milléniales. En France, on se base pour les digues sur les crues centenaires. Entre 100 et 1000, il y a quand même un facteur 10. Donc ça veut dire, pourquoi? Parce que c'est cher. Si on se base sur les crues milléniales, c'est très cher. Mais ça veut dire que le facteur technique ne nous protégera pas. Il n'y a pas de protection technologique contre la catastrophe. Il y a simplement des moyens d'en amenuiser les effets, à condition que le facteur humain soit pris en compte à chaque moment de l'élaboration technologique. Et d'autre part, à condition que les citoyens se préparent ensemble à pouvoir gérer les moyens qui sont à leur disposition et à pouvoir surtout s'entraider, parce qu'encore une fois, l'être humain seul fait rien de rien. L'être humain, depuis les origines de l'humanité, ne survit que collectivement. Et ça, il faut que les pouvoirs publics le comprennent.
Effectivement. Merci beaucoup Serge Tisseron pour votre témoignage et votre regard porté sur les questions des changements climatiques et leurs impacts sur la santé mentale de chacun de nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychiatre, membre de l'Académie des technologies, docteur en psychologie, président fondateur de l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes. Merci Serge.
Merci Jean-Michel, on continue.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.